Le temps ne veut plus rien dire, ma tête tourne, 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 comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudite société, n'a-t-il rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette jaune, 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 les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi vont crier dans cet univers des humains? La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand pour pouvoir cantiner, je dois boulonner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté, celle qui tous les jours vous envoie bosser? Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai vos pauvres barons. Fini le rigole, mais le mot et les lourdes peines.
Bruit de tôle. L'émission a pour objectif d'agir pour la suppression des prisons, pour la remise en cause du principe de punition, la dénonciation du système d'enfermement et de contrôle dans cette société. Mettre en évidence les rouages de la société capitaliste qui prétendent gérer nos vies et nous soumettre à l'état policier et judiciaire. Et cela au nom d'une république démocratique qui ne tolère aucune déviation, révolte ou colère, de quelque forme que ce soit. Les prisons sont l'extrême aboutissement des autres institutions qui nous enferment dans des statuts sociaux liberticides, comme l'école, l'hôpital, les maisons de retraite et celles de la culture et bien d'autres. Bruit de tôle veut rendre visible le système carcéral. Ce système est organisé de telle sorte qu'il est exclu et rendu invisible, presque tabou, de la vie ordinaire de ce monde.
Voilà, l'ancien texte de Brutal, puisque le nouveau est tout simplement perdu, mais on va le retrouver, on va remettre la main dessus. Ce soir, au sommaire de Brutal, deux sujets principaux, et même deux sujets tout court. Tout d'abord, le cas d'Amin Bentounsi, qui a été tué par la police en avril 2012. On va revenir sur cette histoire bien triste, et puisque l'histoire avance et la condamnation du policier assassin est en marche, mais disons que le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis. Voilà. Et puis en deuxième partie, on parlera d'un prisonnier en particulier, mais de plein d'autres en filigrane. Il s'agit de Georges Ibrahim Abdallah, qui est enfermé depuis 32 ans dans les prisons françaises et qui est, depuis quelques temps déjà, à la prison de Lannemezan, prisonnier politique, prisonnier de longue peine. Et bien, ça recouvre beaucoup de choses et beaucoup d'autres prisonniers peuvent se retrouver dans cette histoire. En tout cas, on parlera de son cas un peu plus particulièrement en deuxième partie d'émission.
33 ans.
Et donc, pour commencer cette émission, avant même de passer une première musique, que de nouveautés ce soir, parlons, puisque apparemment...
De la vraie fausse bonne nouvelle.
C'est l'éviction du gouvernement, puisque apparemment, quand on part d'un gouvernement, on donne sa démission, on se fait jamais virer. Pour revenir un petit peu sur Taubira l'alaxiste, comme aime l'appeler pas mal de monde, en tout cas beaucoup de gens, qui sont un peu plus à droite que elle, en tout cas. Et donc on voulait vous lire un petit peu des extraits de l'envolée numéro 37 qui était paru en décembre 2013, si je dis pas de bêtises. Ces derniers mois, le PS a construit son show autour du duo de choc Taubira-Valls. À Taubira, le laxisme, comme je le disais, à Valls, la fermeté. On en oublierait presque qu'ils marchent ensemble, la juge et le flic. Un garde des Sceaux n'a ni sexe ni couleur de peau. Il exerce une fonction. Il fait tourner la machine pénale, met un peu d'huile, ajuste les réglages selon les besoins de l'époque. Marine Le Pen ou n'importe quel autre gestionnaire ne ferait pas autre chose. Et si les FAF lisaient le projet de réforme pénale de Taubira, c'est eux qui auraient la banane, parce que c'est une carotte. Le nombre des condamnés ne cesse de croître. Les chantiers de construction de nouvelles prisons sont à la traîne. Trop de matelas par terre, le flux des entrants et sortants devient ingérable pour les comptables grisâtres de l'administration pénitentiaire. Évidemment, la réforme pénale ne vise ni à vider les prisons, ni à arrêter d'en construire, ni même à geler le nombre d'emprisonnés aux 70 000 actuels. Elle ne s'attaque pas à la surpopulation, elle tâche juste de la réguler. Pour que tout le monde exécute sa peine, sans que les tôles explosent, il s'agit d'enfermer aussi hors les murs. De mieux en mieux, de plus en plus, paye ton laxisme. D'ailleurs, pour que le pays soit tout à fait rassuré, le pauvre cadeau empoisonné promis aux petites peines, la prison à la maison, est aussitôt contrebalancé par l'annonce d'un durcissement pour les longues peines. Ces fameux récidivistes qu'il ne faut plus laisser, jamais laisser sortir, jamais, condamnés à une peine infinie, quand les comptes d'apothicaire de l'administration tombent invariablement en ta défaveur, il n'y a plus de Taubira la progressiste insultée, il n'y a plus qu'une ministre de la justice aussi implacable que tous ses prédécesseurs. Et donc, ce numéro de l'Envolée parlait notamment de la réforme pénale.
Voilà, surtout le fait que des personnes trouvaient sûrement plein de choses positives, puisque, n'est-ce pas, il y avait la gauche, les socialistes et au pouvoir, et donc ils allaient faire une réforme pénale. Mais elle-même, Taubira, cette garde des Sceaux, ne s'en cachait pas. Elle répondait à ses détracteurs que son projet de loi sur la prévention de la récidive et l'individualisation des peines a pour seul but de rendre le suivi des délinquants plus efficaces et donc de mieux assurer la sécurité des Français. Voilà. C'est elle qui parle. Elle souligne aussi d'emblée que la réforme pénale ne réduit ni l'arsenal de peines que les tribunaux peuvent prononcer. Alors les peines d'emprisonnement ferme, d'emprisonnement avec sursis, sursis avec mise à l'épreuve, travail d'intérêt général, amende, jour amende, et ni davantage le quantum de ces peines. Donc elle n'est vraiment pas là pour le diminuer. Sa réforme n'a d'autre but que d'ajouter une peine supplémentaire à l'arsenal punitif existant. Son effet sera de continuer à remplir les prisons tout en augmentant le nombre de personnes placées sous main de justice, sous la tutelle et le contrôle d'État. Et c'est ce qui s'est passé pendant son séjour à la tête du ministère de la Justice. Tous ces chiffres-là ont continué à exploser. Quant au sketch donc, qui oppose le méchant Valls à la gentille Taubira qui a les mains liées avec ses grands sourires, c'est un autre numéro du même show, dans la grande tradition des interrogatoires « bon flic, mauvais flic ». Elle endosse un autre costume, l'uniforme de sa fonction. Lorsqu'en catimini, loin des caméras, elle va féliciter les matons qui ont su réprimer un mouvement de prisonniers à Blois, ou consoler les syndicats pénitentiaires qui pleurnichent sur le manque de moyens, ça c'était après l'évasion de Redouane Faïd, ou encore lorsqu'elle inaugure la prison ultra-sécuritaire de Condé-sur-Sarthe. Et puis quand elle est partie aussi, ses vœux de départ, elle n'a pas oublié de remercier tout ce personnel pénitentiaire qui fait un extraordinaire travail. Elle ne s'est pas du tout plaint. Je ne l'ai pas entendu parler de surpopulation pénale. Je ne l'ai pas entendu parler de volonté de notre orientation dans la société. Elle avait un projet sous le coude pour la justice pénale des jeunes. Peut-être que c'est un bienfait qu'elle soit partie et qu'il ne soit pas mis à jour, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y avait là derrière. Et on sait très bien que derrière les bonnes intentions, n'est-ce pas, on le dit, c'est le pavé, c'est l'enfer qui est pavé de bonnes intentions. Donc il faut arrêter de nous parler de cette icône. En effet, c'est un ministre de la justice, et la justice et la police, c'est un tandem qui marche ensemble. La preuve, c'est qu'ils ont mis comme ministre un qui sort de la police, n'est-ce pas, et qui continuera fort bien le travail. Et je crois
alors
pas
là, tout le monde se réjouit sur ce Urvoas, hein. Là, tout le monde est unanime, la droite, la gauche, l'extrême droite, les syndicats de flics, tout le monde est content
sur la nomination
d'Urvoas là, hein, je crois. J'ai l'impression que ça fait pas beaucoup de... Voilà, personne s'en plaint, quoi. En tout cas, ça y est, la laxiste est partie, on va pouvoir revenir à de la fermeté.
Oui, oui. Enfin, non, mais comme quoi les médias peuvent, on peut nous changer n'importe quoi, parce que laxiste, il faudrait qu'il donne des preuves, et laxiste sur quoi ? Hein, puisque, en effet, les longues peines ne sortiront jamais, seront toujours surveillées. Les prisons se remplissent
ouais,
de plus en plus.
Il y a des nouvelles prisons qui s'ouvrent, de plus en plus sécuritaires. Elle a inauguré les Baumettes 2 également. Alors, c'est par exemple, la gauche se pavanait, enfin en tout cas gueulait contre la rétention de sûreté instaurée par Sarkozy. Eh bien, la gauche est là, elle peut très bien l'enlever, cette rétention de sûreté. Elle existe toujours, Taubira l'a pas enlevée. Alors, on nous dit que ça concerne pas beaucoup de monde, mais symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire de pas pouvoir sortir de prison parce qu'on estimait dangereux par son psychiatre.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc,
c'était notre édito.
C'était notre édito repris par celui de l'Envolée. On va se faire une première pause musicale. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire au 05 61 53 36 95. Nous sommes en direct chaque jeudi de 19 à 20h, ou presque, et chaque vendredi en rediffusion de 17 à 18 sur le 92.2 et sur internet www.canalsud.net. Et les juges marchent avec les flics, et ben d'ailleurs, c'est d'eux qu'on va parler, des flics, dans cette chanson.
Nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, they can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say.
MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident?
Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint. In my path of police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up, and we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass, but drop your gat and Ren's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, any asshole that me. I'm a sniper with a hell of a scope, taking out a cop or two. They can't cope with me. The motherfucking villain that's mad, with potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around, put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say.
Fuck the police.
Step up to the stand and tell the jury how you feel about this bullshit.
I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face, and for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Cause my identity by itself causes violence. No behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me.
N.W.A. du vieil hip-hop à l'ancienne avec le titre Fuck the Police, tout ça pour introduire cette histoire qui commence le 22 avril 2012. Amine Bentounsi, franco-marocain de 28 ans, abattu d'une balle dans le dos par un policier. Ça s'est passé à Noisy-le-Sec en 93. Son histoire, qui est aujourd'hui bien connue, c'est celle du plus jeune détenu de France, puisqu'il avait été incarcéré à l'âge de 13 ans. C'est l'histoire du petit frère de Amal Bentounsi, donc, qui raconte lors du rassemblement qui avait été organisé trois semaines après l'assassinat de son frère. Donc Amal Bentounsi disait que sa vie, c'est la prison, ses amis, ce qu'il a appris, c'est en prison. Comment peut-on penser qu'après tant d'années à avoir été broyé par ce système carcéral, qu'on puisse ressortir de là sans séquelles, et qu'en plus de sa peine initiale, on le prive de venir pendant 10 ans dans sa ville natale, là où sa petite fille vit, où sa famille vit, dans sa réinsertion, seule la famille peut encore jouer un rôle. C'est une double peine qu'on lui afflige. Je ne peux m'empêcher de penser à toute cette souffrance qu'il cache au plus profond de lui-même, et que seuls ses cernes sous ses yeux trahissent de nuit à pas dormir, à penser, pleurer sur lui-même, en laissant toujours apparaître que tout va bien, même en étant enfermé. Donc Amine Bentounsi était depuis juillet 2010 sous le coup d'un avis de recherche, parce qu'il n'avait pas voulu réintégrer le centre de détention de Châteaudun après une permission. Le centre de détention de Châteaudun, c'est une prison qui est, selon la rhétorique carcérale, un modèle de modernité et d'humanité. Mais pour celles et ceux qui la connaissent, elle est froide, blanche et perdue en pleine campagne française au milieu de nulle part. Donc à partir de ce 22 avril 2012 et l'assassinat de Amine Bentounsi, eh bien la lutte a commencé pour le comité de soutien mené par Amal Bentounsi, donc sa sœur. On écoute un petit extrait du rassemblement de la commémoration un an après son assassinat.
On est à Noisy-le-Sec pour la commémoration de la mort de Amine Bentounsi.
Mon petit frère Amine a été tué d'une balle dans le dos le 21 avril 2012 par un policier.
C'était pas l'homme qui déclarait dans les médias. Ils ont dit qu'il était là pour un braquage, c'est pas ça du tout. Il était là juste. C'est vrai qu'il était en cavale, mais bon, il était là en train de boire un café, il faisait rien de mal.
C'est une balle qui est partie en plus dans le dos.
S'arrêter aujourd'hui à un énième contrôle, à un dixième contrôle, voilà, c'est sachant qu'on va risquer forcément l'outrage, la rébellion systématiquement, donc qui va entraîner la garde à vue et qu'on va rentrer dans un engrenage. Il y a toutes les raisons de ne pas s'arrêter et de courir.
Malheureusement, c'est pas le premier et pas le dernier non plus. C'est quand même plus de 500 cas depuis 81.
C'est une forme d'extermination à petit feu puisque c'est un mort tous les 15 jours.
Je suis sur Bagnolet, il y a eu aussi des histoires similaires, aussi des crimes policiers dans d'autres villes en Seine-Saint-Denis, il y en a à l'appel.
Qui vise à 99% des Noirs, des Arabes.
C'est malheureusement ce qui se passe dans beaucoup de cités, dans beaucoup de quartiers populaires.
Je suis aussi famille de victimes.
Moi c'est le papa de Madi Youssef, mon fils il a eu le même problème.
Mon neveu c'est Mamadou Marega, il a été tué dans la nuit du 29 au 30 novembre 2010 à Colombes.
Youssef, suite à un contrôle de police, il a sauté à la Seine.
Il a été expulsé de chez lui par la police, ils l'ont gazé, ils l'ont matraqué et ils l'ont tasé à 16 reprises. Ils étaient plus d'une dizaine de policiers sur lui.
C'est une assistance à personne en danger. Ils demandaient de le secours et tout ça, et des mois, j'arrive pas, il n'y a personne qui a bougé à part le deuxième fils qui a sauté.
L'année dernière, il y a eu un non-lieu, là, ben, on a fait appel, on attend.
C'était pas un criminel ou quelqu'un de violent ou quelque chose, il a fait des bêtises comme tous les jeunes, je dis pas le contraire, mais même si c'est un criminel, on doit sauter pour le secourir. J'attends la justice, j'attends qu'il paye.
Systématiquement, ça termine par des non-lieux. Aliziri, non-lieu. Aboubakari Tanja, non-lieu. Faut que ça s'arrête. La grande première, c'est quoi? C'est celle d'Amine. Lui, c'est homicide volontaire.
C'est une des rares fois où un flic est poursuivi.
Malgré ce chef d'inculpation qui est homicide volontaire, il continue à percevoir son salaire. Il est libre en attendant son procès.
Ça a été aussi la première visite du ministre de l'Intérieur à peine en fonction, juste après les élections. Dans les premiers jours, il est allé ici au commissariat, à Noisy, etc. pour assurer les policiers qu'il était avec eux.
Ce sont des crimes mandatés par l'État, parce que c'est les policiers ne font qu'obéir au ministère de l'Intérieur qui représentent l'État.
On se sert de nous comme les ennemis intérieurs, c'est ce qu'ils veulent faire penser à la société. Les barrières, elles sont mises dans la société.
Dans l'affaire de mon frère, on va dire qu'on n'a pas à se plaindre.
Mais on espère aussi que ça va aboutir aussi dans le sens que les condamnations vont suivre aussi l'homicide volontaire. C'est pas parce qu'on soit des Noirs ou des Arabes, parce que la majorité c'est ça, qu'il faut qu'on nous mette dans un côté, qu'on ait une justice moins avantageuse qu'une autre personne.
On sait que 2005 nous guette, parce qu'on sait très bien que toutes les révoltes des quartiers, elles sont toutes parties suite à des crimes policiers, elles ne sont jamais parties par hasard.
On a des enfants, on aura des petits-enfants. Bon, c'est pour nous, les générations à venir, pour que voilà, qu'il n'y ait pas ça. Parce que si on ne bouge pas maintenant, je pense que ce sera trop tard et voilà, ce sera dommage.
Voilà, ça c'était les réactions un petit peu, en tout cas les témoignages des manifestants un an après la mort d'Amin Bentounsi, donc en avril 2013. Et comme vous l'avez entendu, le flic qui a tué Amin Bentounsi, donc lui s'appelle Damien Sabougian, était d'abord poursuivi pour homicide volontaire. Ça, c'était un an après les faits. Tout le monde se réjouissait, en tout cas, que pour une fois, la qualification des faits collait à ce qui s'était passé. Et pourtant, il a finalement été jugé pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique. Alors, on va revenir un petit peu sur les circonstances, en tout cas, de l'assassinat de Amin Bentounsi. C'était le soir du 21 avril 2012. Ce soir-là, donc Amin Bentounsi est recherché pour ne pas être rentré d'une permission de sortie. Il est repéré devant un bar de Noisy-le-Sec et il est poursuivi par la police. Il tente de fuir, mais il tombe quelques minutes plus tard, nez à nez, avec l'un des policiers à sa recherche. Pris de panique, entre guillemets, car il aurait été mis en joue par Amin Bentounsi. Ça, c'est en tout cas la version du flic. Le policier tire 4 balles dans sa direction. Amin en reçoit une dans le dos, elle lui sera fatale. Donc très tôt, les contradictions dans les récits des flics présents ce soir-là, notamment dans celui du flic tireur, apparaissent. Les enquêteurs et les juges d'instruction pointeront eux-mêmes des arrangements avec la réalité et de nombreuses incohérences. Surtout, les témoignages de voisins et d'automobilistes qui ont assisté à la scène mettent à mal la version policière. Personne n'a vu Amin Bentounsi braquer le policier. Par contre, en revanche, des automobilistes certifient avoir été mis en joue par Damien Sabougian, le flic qui a tué Amin Bentounsi. De quoi remettre en cause du coup l'argument de légitime défense. Le policier et l'un des officiers qui avaient menti pour le protéger ont d'ailleurs été mis sur écoute pendant l'année 2012. Ils savaient qu'ils étaient surveillés. L'accusé, donc le flic Damien Sabougian, ne laisse filtrer aucun élément sur l'affaire. En revanche, les bandes mettent en évidence, les enregistrements mettent en évidence donc la solidarité policière et institutionnel dont jouit le fonctionnaire mis en examen. Tout sera fait pour le protéger et lui simplifier la vie. Maintien du traitement. Choix de la région de mutation, puisqu'il a été muté, il pouvait choisir la région dans laquelle il a été muté. Par contre, il était toujours en service, il n'était pas en préventif, évidemment. Accélération des démarches également. D'autant que en 2012, vous le savez, il y a eu la présidentielle. C'était quelques jours avant la présidentielle que Amin a été assassiné. L'affaire a été particulièrement donc médiatisée et politisée. Et par le biais de Nicolas Sarkozy, ce cher candidat de 2012 en tout cas, eh bien, le débat de la présomption de légitime défense des flics s'invite dans la campagne électorale. Et à gauche comme à droite, la défense des flics apparaît alors comme un moyen stratégique politicien d'affirmer une ligne sécuritaire. Voilà, plus on est à droite, plus on a des lecteurs. Et donc bien la lutte pour la reconnaissance de ce meurtre s'est mise en marche. Notamment sa sœur Amal Bentounsi a joué un grand rôle en tout cas dans cette affaire. D'ailleurs, elle a rapidement créé un collectif qui s'appelle Urgence Notre Police Assassine, et donc qui regroupait des familles et des proches de victimes de flics. Et donc, fin 2013, elle publie une vidéo sur le site d'Urgence Notre Police Assassine qui était assez virulente à l'égard des flics. On écoute tout de suite un petit extrait de cette vidéo, c'est assez intéressant.
Et commettre des violences et des crimes en toute impunité, sans jamais être inquiété par la justice. Vous êtes insultant, violent, ne respectez pas le code de la déontologie. Méprisant, arrogant sont vos qualités. Prêt à tuer sans être en état de légitime défense. En argent de poche, pour arrondir vos fins de mois, coller des outrages à agents. La police recrute et la justice vous protège et vous acquitte. Même si vous êtes coupable, ne vous inquiétez pas. On fera en sorte que vous ne le soyez plus. Nos syndicats sont puissants, alors n'attendez pas. La police est le meilleur métier pour être au-dessus des lois. Urgence, notre police assassine.
Voilà, donc c'est un peu sur le thème de la dérision, mais avec un fond très pertinent.
Oui, parce que quand elle dit, par exemple, faire de l'argent avec outrage à agent, faut bien le dire, hein, c'est qu'à chaque fois, dès qu'il y a un outrage à agent, les policiers ont donc...
Des indemnités
financières voilà. Sonnantes et trébuchantes.
Voilà. Et donc, par ce message, Amal Bentounsi, elle a été accusée de diffamation. Cette affaire a été portée devant un tribunal, elle a été accusée, donc c'était assez grave, mine de rien. Elle s'est retrouvée devant le juge à son tour, alors que son frère s'est fait buter par un flic et qu'elle dénonce ces agissements-là et tout ce qui se passe derrière. Et donc, finalement, quand même, les juges n'auront pas eu l'insulte de la condamner, mais en tout cas, elle a donc été relaxée. Mais c'était un coup de pression parmi tant d'autres. Elle en reçoit beaucoup, des coups de pression, Amal Bentounsi. Elle a également organisé la marche de la dignité récemment, là, en octobre 2015. Et en août 2015, elle s'est même fait agresser par un flic également. Elle était en famille, on en avait parlé à cette antenne. Bref, donc c'est la sœur d'Amin Bentounsi qui porte cette lutte. Eh bien, elle n'a pas fini son combat. On va revenir du coup à cette affaire-là, parce que du coup, en 2013, au moment où elle passait ce message, l'affaire était toujours en cours d'instruction, on va dire. La famille craignait que l'affaire soit instrumentalisée par un gouvernement qui avait repris à son compte les réflexions droitières autour de la présomption de légitime défense des flics, puisque la campagne électorale avait voulu justement cette espèce de faux débat. Alors Amal a à ce moment-là déclaré que ce que l'on veut, nous, c'est la justice. Mon frère a été tué d'une balle dans le dos par un flic qui, comme cela a été prouvé, n'était pas en situation de légitime défense. Donc au moment du procès, donc, qui s'est déroulé finalement, le procès du flic assassin de Amin Bentounsi s'est déroulé du 11 au 15 janvier de cette année, là, 2016, et donc elle espérait quelques semaines avant que les rôles ne soient pas inversés entre l'accusé et la victime. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce procès? Eh bien, le flic a été relaxé, tout simplement. Complètement relaxé, donc c'est-à-dire que, en fait... Donc on va revenir un petit peu sur le procès. L'avocat général, le proc, hein, en fait, en cour d'assises, avait réclamé quand même une peine de 5 ans avec sursis. Avec sursis, il ne faut pas quand même mettre les flics en prison, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, une peine de 5 ans avec sursis assortie de mesures de soins. Il avait aussi demandé l'interdiction d'exercice du métier de fonctionnaire de police pour Damien Sabounjian, le flic. Et enfin, il avait réclamé la suspension de son port d'armes pour 5 ans, maximum autorisé par la loi. Les jurés n'ont donc pas suivi le réquisitoire de cet avocat général. La cour a estimé qu'en fait le flic avait agi en état de légitime défense, tout simplement, et alors qu'il a quand même tiré dans le dos de Amin Bentounsi et qu'il n'était donc pas responsable pénalement de sa mort. Donc relax, mais alors coup de théâtre quand même, le parquet a fait appel de cette décision.
Ah,
eh bien donc, oui, le parquet a fait appel de cette décision, donc l'affaire n'est pas finie, puisque il va y avoir un jugement.
Grossier, parce que ça a été un peu grossier quand même.
Là, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, on peut peut-être pas non plus relaxer complètement, il faut au moins une peine symbolique, quoi. Il faut pas la relaxer, ça va un petit peu trop loin. Et alors, bien sûr, Alliance, syndicat de flics, parle d'acharnement judiciaire sur la personne de Damien Sabounjian. Nous témoignons notre soutien à notre collègue, nous continuerons à te soutenir dans cette épreuve et nous serons présents au moment de l'appel. Et bien ça, c'est le syndicat Alliance, donc ils sont... Ouais, voilà,
Donc l'affaire continue.
Et donc l'affaire continue, et voilà, et on suivra évidemment l'affaire, on vous en reparlera quand il y aura le procès en appel. On se fait une pause musicale peut-être, on va introduire le prochain sujet puisqu'on voulait parler de Georges Ibrahim Abdallah. Il s'agit de Scalpel dans le groupe Première Ligne, c'est ça, avec un titre qui s'appelle Palestine Abdallah.
Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, camarades, ne peut pas nous laisser indifférents. Depuis plus d'une soixantaine d'années, et avec quel héroïsme et quelle obstination, les masses populaires palestiniennes et leurs avant-gardes combattantes font face à l'une des dernières entités de colonisation de peuplement, faisant confiance aux masses populaires et à leurs diverses expressions de lutte, qui, comme nous le voyons aujourd'hui, s'affirment de plus en plus avec l'aggravation de la crise un peu partout dans le monde, du Moyen-Orient à l'Afrique et au Sud-Est asiatique, de l'Europe aux Antilles et à l'Amérique du Sud.
Depuis quand défendre sa terre c'est mal? Depuis quand être de gauche empêche les postures coloniales? Rien à foutre de mon drapeau colon. Comme dirait Fanon, y'a que la violence qui te ramène à la raison. Qui détruit les maisons, bombarde des villes. Bombe au phosphore contre lance-pierre à billes. Qui pratique l'apartheid envers arabes et falacha? Citoyens de seconde zone de Tel Aviv à Ramallah. Démocratie raciste, rempart de l'Occident. Depuis quand les persécutés sont devenus blancs? J'entends Gaza, les bombardements. J'attends Israël, une bombe à retardement. Décolonisons, il ne peut en être autrement. Depuis quand les opprimés se rebellent gentiment?
Bande à Georges Abdallah ou aux frères Camara. 30 ans, 15 ans, 12 ans pour une vengeance d'État.
Je suis Georges Abdallah, le peuple qui gueule à Ramallah. En Cisjordanie, je marche en bande comme à Gaza. Résistance, Kassam, Pierre, Intifada. J'écris pour mon liberté, liberta, Ouliga. Je suis le sang répandu sur les champs d'olivier. Un point levé, des années de dignité. La Nakba, plus durcie, on n'oublie pas. Libéré Georges Abdallah, Palestine vaincra. 31 ans d'enfermement, ça suffit pas. Apparemment, c'est pas assez comme châtiment. Chantage au reniement, prison loin du Liban. Prisonnier politique, je suis un résistant. Ils te disent que c'était par la Palestine. C'est bizarre, c'est tordu, forcément c'est confus. Sous-entendre que t'es antisémite, mais comme Gaza, je ne m'avouerai jamais vaincu. 500 enfants massacrés, ça suffit pas. C'est passé, la résistance ne faiblit pas. Encore combien d'années à payer pour l'Occident? Les pogroms et ces millions de décès. La paix négociée sur les cadavres et la raison. Boycott l'apartheid et la colonisation. Il ne crée le choc des civilisations. De la Knesset au Capitole, c'est la parole des faucons. Je suis Georges Abdallah, le peuple qui gueule à Ramallah. En Cisjordanie, je marche en bande comme à Gaza. Résistance, Kassam, Pierre, Intifada. J'écris pour mon liberté, liberta, Ouliga. Je suis le sang répandu sur les champs d'olivier. Un point levé, des années de dignité. La Nakba, plus durcie, on n'oublie pas. Libéré Georges Abdallah, Palestine vaincra.
Face au climat délétère d'oppression et des manipulations, la solidarité s'avère pour ce qu'elle est, une arme indispensable pour tous ceux et celles qui résistent et refusent de se renier. Avant l'impérialisme et ses chefs garcionistes de leurs complices réactionnaires arabes, honneur aux martyrs et aux peuples en lutte, ensemble camarades, nous vaincrons.
Mur par mur, nous détruirons toutes les prisons.
On entend le son de la manif. Alors c'était en 2013, au mois d'octobre, parce qu'il faut savoir que tous les ans, il y a un rassemblement devant la prison de Lannemezan où Georges Ibrahim Abdallah est enfermé, puisqu'il a été arrêté le 24 octobre 1984. Donc en 2013, on fêtait c'était les 30 ans d'enfermement, donc on en est à 33 ans aujourd'hui. Bientôt, en octobre 2016, ce sera 33 ans. Alors, une première chose d'abord, c'est qui est Georges Ibrahim Abdallah?
Très bonne question. Ah non, mais c'est vrai, il faut réintroduire à chaque fois.
Hein, oui, on va revenir et même revenir sur les contextes de l'époque. Georges Ibrahim Abdallah donc, est né le 2 avril 1951 à Koubayat, petite ville de la région de Lakkar, dans le nord du Liban. Alors, il appartient à une famille maronite. Les maronites sont des chrétiens d'Orient. La communauté constitue un des principaux piliers de la vie politique et économique donc du Liban. Son père était militaire. Georges a fait ses études à l'école normale d'Arafié, dans l'est de Beyrouth. Pour premier poste en 1972, il a été nommé instituteur dans un village de la plaine de la Beka, près de Baalbek. Il enseignera jusqu'en 1979. Alors, il faut savoir qu'il s'est politisé très tôt et qu'il a milité au sein du Parti Social Nationaliste Syrien. C'est le PSNS, Parti Politique Laïque Libanais, qui avait été créé en 1932 pour mettre fin à l'occupation colonialiste française au Liban, puisque c'était une colonie française.
Alors, juste peut-être, tu dis c'est un parti laïque, il faut préciser que c'est pas la même laïcité qu'on a aujourd'hui ici, quoi. C'est liberté religieuse, et d'ailleurs, Georges Ibrahim Abdallah se définit comme un athée.
Oui.
Ce qui est important quand même dans
la laïcité, c'est la liberté de religion.
Voilà, c'est ça.
Pas, l'interdiction ou voilà. Mais bon, ça ici, nous, on donne toujours des leçons aux autres. Alors donc, et puis ensuite, il a rejoint le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui est le FPLP. Donc je rappelle que ça a été fondé en 67 par Georges Habash et Ahmed Jibril, et que ce Front Populaire donc rejoint l'OLP en 68. Et donc c'est les deux organisations de l'OLP, c'est le Fatah d'Arafat et ce groupe qui mène une lutte anti-impérialiste qui est animée par le nationalisme arabe et le marxisme révolutionnaire. Donc ça, c'est le militantisme de Georges Ibrahim Adala. Mais après des entraînements dans différents pays arabes progressistes, dont le Yémen du Sud, il devient proche du leader des opérations extérieures du FPLP. Parce qu'il faut dire que dans le FPLP, il y avait des discussions. Il va falloir que ma voix s'éclaircisse, je ne comprends pas. Certains étaient contre de mener des actions. Donc ils ont créé, comme on dit la branche armée 2, et bien là, ils ont créé les opérations extérieures du FPLP. Alors il est blessé lors de combats contre les forces israéliennes en 1978, et il participe ensuite à la création des fractions armées révolutionnaires libanaises. C'est une organisation communiste anti-impérialiste à partir de 1980. Il sera donc arrêté le 24 octobre 1984 à Lyon. Et le tribunal spécial de Paris le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité en début mars 87. Il a toujours été emprisonné dans des centrales de sécurité, dites centrales à effectifs limités, donc Châteauroux à Saint-Maur, Clairvaux, Moulins et Lannemezan, où il est depuis longtemps. Et il faut savoir qu'il est libérable selon la loi française depuis le mois d'octobre 1999.
Est-ce que tu comptes revenir sur les circonstances de sa condamnation ou pas forcément?
Un petit peu, je voulais revenir surtout parce que j'aime bien quand même, il est en prison en France et qu'est-ce que la France a à voir avec ça, l'histoire du Liban, etc. Ouais, c'est intéressant. Ouais, la guerre du Liban, c'est en 82. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 81, on a élu François Mitterrand et la gauche était au pouvoir en France. Hein. Oui, certain. Alors, eh bien, la guerre du Liban, c'est le 6 juin 1982. L'armée israélienne envahit le Liban, prétextant des représailles après une tentative d'exécution de l'ambassadeur en Grande-Bretagne. En fait, l'opération baptisée « Paix en Galilée », ils ont de l'humour, ces Israéliens, était préparée de longue date. Et c'est pour chasser les forces armées palestiniennes du Liban, affaiblir le camp progressiste dans la guerre civile pour favoriser la prise du pouvoir des alliés d'Israël. C'est-à-dire faire le ménage au Liban, enlever tout ce qui pouvait être communiste, progressiste et surtout soutien des Palestiniens ou Palestiniens en lutte. Le 18 juin, l'armée israélienne assiège Beyrouth. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'opération israélienne du 6 juin 1982 a reçu les encouragements des principaux pays occidentaux réunis au sommet des pays industrialisés de Versailles, sous les auspices donc de François Mitterrand, Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Que du beau monde.
Que du beau monde.
Donc voilà, donc l'armée israélienne est envahie. Les résolutions de l'ONU exigent le retrait des forces israéliennes, mais bien sûr, ils n'écoutent rien. Le bilan de paix en Galilée, 25 000 morts, 45 000 blessés. Au mois d'août, intervention des forces armées américaines, françaises et italiennes au Liban. Les forces états-uniennes imposent l'évacuation vers la Tunisie, dont Yasser Arafat, qui est obligé de se sauver donc avec l'OLP. Du 30 août au 1er septembre, les combattants armés palestiniens quittent donc Beyrouth Ouest et abandonnent les principaux camps. Le 11 septembre, Ariel Sharon, ministre de la Défense israélien, prétend que 2000 terroristes se cachent encore dans les camps de la périphérie de Beyrouth. Le 15 septembre, au lendemain de l'attentat mortel contre Bachir Djemayel, le nouveau président du Liban et fidèle allié d'Israël et des États-Unis, bien sûr, l'armée israélienne boucle les camps de Sabra et de Shatila. Notre entrée dans Beyrouth Ouest était destinée à faire la guerre contre l'infrastructure laissée par les terroristes, témoigne Ariel Sharon. En début de soirée jusqu'au lendemain, Sabra et Shatila seront pilonnés par les chars israéliens. Et le 16 septembre, alors que les camps se trouvent sans aucune défense militaire, les Israéliens qui entourent le camp laissent pénétrer les phalangistes dirigés par Eli Obeka. Et c'est le massacre qui commence. Il durera deux jours entiers. Comme les phalanges l'avaient déjà fait à la quarantaine et les réactionnaires chrétiens, ils violent, ils torturent et ils tuent. On estime le nombre de victimes à 3500, essentiellement des personnes âgées, des femmes et des enfants. C'est donc Sabra et Shatila en 1982. C'est juste pour expliquer qu'on peut comprendre que des gens se soient levés et aient voulu quand même faire quelque chose contre ce genre d'action. Voilà, alors 84, puisque c'était en 82, hein, Sabra et Shatila et l'invasion. 84, c'est là où commence le consul américain Robert Onon Homme échappe à plusieurs tirs d'armes à feu. Le 6 août, la police eh bien, arrête un militant du FARL, donc je vous l'avais dit, les fractions armées révolutionnaires libanaises. Et le 24 octobre, donc, Georges Ibrahim Abdallah est arrêté à Lyon. Et il était porteur, alors on dit d'un vrai faux passeport algérien. Mmh. En fait, c'est un vrai passeport algérien qui a été délivré par les autorités algériennes, mais c'est le nom qui est faux. Voilà. Mmh. Et donc, c'est à partir de 84, donc, se monte vraiment ce qu'ils appellent, qui est dit, la fausse piste des frères Abdallah. Et ça, c'est pour occuper le terrain médiatique. C'est le gouvernement qui crée de toutes pièces la piste donc, des frères Robert et Maurice Ibrahim Abdallah. Ça, c'est le témoignage de Robert Pandreau, qui était secrétaire d'État à la sécurité de l'époque, ministre de la police. Il dit « Nous avions lancé la piste des FARL sur la base des premiers témoignages, même si nous savions que pour des Français qui pensaient avoir reconnu des frères Abdallah sur les lieux de l'attentat, tous les barbus proche-orientaux se ressemblent. Nos contacts, notamment algériens, nous assurent que le camp Abdallah n'est pour rien dans ces attentats, mais ne nous en apporte pas la preuve. Je me suis dit qu'au fond, mettre en avant la piste Abdallah ne ferait pas de mal, même si ça ne faisait pas de bien. En réalité, nous n'avions alors aucune piste. » C'est le ministre de la police qui va. Le 17 septembre, le jour même de l'attentat meurtrier contre le magasin Tati de la rue de Rennes, les autorités françaises font afficher dans tous les lieux publics, mairies, gares, postes, métro, 200 000 affiches avec les photos des deux frères Robert et Maurice Ibrahim Abdallah. Et ils annoncent une prime d'1 million de francs pour tout renseignement permettant leur arrestation, alors que les deux hommes vivent et travaillent au grand jour dans la ville de Tripoli. Donc c'est pour dire quand même qu'il y a un biais déjà faussé dès le départ dans cette histoire. Alors, il faut dire aussi, donc, il est évident que c'est une manipulation des services secrets, alors secrets français. Alors, il y en a eu, hein, on a eu l'affaire des terroristes de Vincennes, là, avec des faux trucs, etc. Le problème, et pourquoi on parle aujourd'hui, parce que, un, ça fait un petit peu anecdote que les médias crient et fassent la lalie sur quelqu'un sans avoir de preuves, que les services français créent une fausse piste. Quelque part, c'est pas nouveau, mais nous, ce qu'on veut vous dire, c'est quand même Georges Ibrahim Abdallah est toujours en prison et qu'il paye pour cela. Mmh. On va faire une petite pause. Alors, c'est la chorale qu'on met ?
Eh bien, on peut mettre cette chorale, oui.
Chorale qui a chanté devant la prison de Lannemezan. C'était au mois d'octobre 2013.
À l'officier, réponds fièrement. À l'officier, réponds fièrement. Israélien, passez votre chemin. Gardez votre or, je garde ma souffrance. Moi je ne suis qu'une enfant palestine. À l'ennemi je ne tends pas la main. À l'ennemi je ne tends pas la main. Mon père est mort sur vos champs de bataille. Et je ne sais l'endroit de son cercueil. Ce que je sais c'est qu'une de vos balles m'a fait porter cette robe de deuil. M'a fait porter cette robe de deuil. Tout en rêvant à ces champs d'olivier. Ma mère est morte sous vos murs écroulés, blessée à mort par l'une de vos balles, blessée à mort par l'un de vos boulets, blessée à mort par l'un de vos boulets. Mon frère croupit dans une de vos geôles, pour avoir un jour osé résister, contre vos chars, vos flics et votre armée. Trop d'entre nous sont encore enfermés, trop d'entre nous sont encore enfermés. Palestiniens encore emprisonnés par les sionistes et les impérialistes. Georges Abdallah, tu fais partie d'entre eux. 30 ans de prison, 30 ans de résistance. 30 ans de prison, 30 ans de résistance. Intifada jamais ne faiblira. La résistance jamais ne s'éteindra. Dans toutes les villes et dans tous les quartiers. Les peuples en lutte, crient solidarité, les peuples en lutte, crient solidarité. Israéliens, vous avez pris nos terres, vous avez pris nos pères et nos mères, mais notre cœur, jamais vous ne l'aurez. La Palestine, jamais vous ne l'aurez, la Palestine, jamais vous ne l'aurez.
à la date, à plusieurs années en arrière, c'était le 17 octobre 1961. Comme quoi le destin de ce camarade est lié à la libération des peuples. Aujourd'hui, on m'a demandé de prendre la parole et de faire un résumé de tous les textes qu'il a envoyés. Que cette initiative, je cite, solidaire me remplit de force et me réchauffe le cœur. Vos initiatives, camarades, tout au long de ces nombreuses années, ont participé à démasquer l'acharnement judiciaire dont font l'objet les prisonniers révolutionnaires. Que toutes ces initiatives ont enrichi et consolidé nos structures dans la diversité de vos expressions et évidemment ceux qui misaient sur l'essoufflement de cet élan solidaire en sont pour leurs frais. Toute notre solidarité aussi au peuple palestinien et à leur résistance incarcérée. Oui, on peut dire oui. Il me semble que c'est ensemble que nous vaincrons. J'en suis même persuadé. C'est ensemble contre l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et occidentaux et autres réactionnaires arabes. Avec Georges Ibrahim Abdallah, le concept d'impérialisme prend tout son sens. On sait qu'aujourd'hui, Georges Ibrahim Abdallah est un prisonnier des États-Unis délocalisé en France. On le sait. Ça a été écrit par des sénateurs qui ont demandé à ce qu'on ne le libère pas. Deux décisions de justice. Deux. Pour une fois que la justice rend la justice, par deux fois, elle a demandé sa libération. Et alors, c'est le ministre de l'Intérieur et le gouvernement Hollande. La nullité absolue. La nullité absolue. Qui ont fait en sorte que la Cour de cassation, par un subterfuge juridique totalement nul, qui en général la cassation bénéficie à la victime, cette fois-ci elle a bénéficié au gouvernement et l'exécutif, qui a trouvé une petite règle dans laquelle il est dit que tout prisonnier politique ou tout prisonnier de longue durée doit avoir obtenu une libération probatoire d'un an. Ça fait 8 fois qu'on lui refuse la liberté et aujourd'hui on lui demande, vous ne l'avez pas eu donc vous ne pouvez pas partir. On est à ce stade-là. De débilité dans la juridiction française aujourd'hui. Inadmissible. Georges Ibrahim Abdallah doit sortir de prison. Aujourd'hui, il y a quelques députés qui ont enfin pris l'initiative. Et on l'avait fait d'écrire à Hollande. On a écrit à Hollande, on a écrit à Mandela, on a écrit à Taubira. Ils ne nous ont jamais répondu. Mais aujourd'hui, il y a quelques députés qui ont enfin, après les campagnes que tous les comités de solidarité ont menées ici en France et à l'international, ont permis qu'à ces députés demandent la libération immédiate de Georges. Et sans condition. Sans condition aucune. Même le comité libanais aujourd'hui demande indemnisation. Une indemnisation pour ce personnage qu'on a gardé 30 ans en prison. Bien sûr qu'il est attendu au Liban. Il a attendu au Liban et il arrivera en héros. La première négociation qui a voulu se mener, on a voulu lui faire dire qu'il devait regretter et en même temps, il devait tout de suite simplement reconnaître que quand il rentra au Liban, il rentra en douce. Inadmissible. Tout le monde l'attend. Et c'est peut-être parce que quand il sera là, il recréera une dynamique contre l'impérialisme américain et l'impérialisme sioniste qui existe là-bas. Et bien sûr, contre toutes les réactions arabes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Avant de donner la parole à tout le monde, on voudra dédier un poème, puisque la Palestine est au cœur de Georges Ibrahim Abdallah. C'est un poème de Mahmoud Darwish, je crois que tout le monde connaît ici. Il s'intitule « Défi ». Liez-moi serré, privez-moi de mes cahiers et de mes cigarettes, peloter la boue sur ma bouche. Or, le poème est sang de cœur, sale du pain, haut de l'œil. Écrit avec les ongles et les orbites, les poignards, je leur dirai, à la maison d'arrêt, au bain, à l'étable, sous le fouet, sous la tâche, dedans les rues de chêne, qu'un million d'oiseaux sur mon cœur en forme de branche crée la mélodie des combattants. Merci.
Voilà, donc on a entendu un petit peu dans la prise de parole où il parlait de libération de Georges Ibrahim Abdallah. Alors, en effet, il a fait plusieurs demandes de libération. Alors, il faut savoir qu'en mars 2002, elle a été rejetée. En septembre 2002, il est incarcéré donc à Fresnes. En novembre 2003, la juridiction de la libération conditionnelle de Pau ordonne sa remise en liberté à condition qu'il quitte définitivement le territoire pour le 15 décembre. Eh bien, Dominique Perben, alors ministre de la Justice, fait appel de la décision, si bien que en janvier 2004, eh bien, il voit Georges Ibrahim Abdallah voit sa demande rejetée. En janvier 2012, il refait une demande, huitième demande de libération. Le 21 novembre, le tribunal d'application des peines en matière de terrorisme, compétent en matière de terrorisme, donc réuni à Lannemezan, eh bien, prononce un avis favorable à la demande de libération de Georges Abdallah. Le 10 janvier 2013, la Chambre d'application des peines de Paris, qui examine l'affaire en appel, accède donc en la conditionnant à un arrêté d'expulsion du territoire français.
Voilà, donc pour qu'il puisse être libéré, il faut qu'il soit expulsable, voilà. Expulsé, quoi.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, le gouvernement libanais est d'accord pour le recevoir et que tout pouvait se faire. Mais cette décision est annulée en avril 2013 par la Cour de cassation, car justement, c'est ce qu'a dit l'interlocuteur là tout à l'heure qui avait au micro, eh bien, on estime qu'il devait faire une période de surveillance sous bracelet, de conditionnel pendant un an. Alors, on lui a tout refusé, ses libérations, mais là, il ne peut pas partir parce qu'il n'avait pas été libéré. Et le 5 novembre 2014, le tribunal d'application des peines rejette une nouvelle demande de libération. Décision confirmée en appel en mois de février 2015. Et alors là, les motifs ont changé. On nous dit qu'il ne fait pas l'objet d'un arrêté d'expulsion. Alors en effet, Valls n'a pas signé l'arrêté d'expulsion. Alors pour une France qui expulse à tour de bras tous les gens, bon là, ils n'ont pas signé l'arrêté d'expulsion, donc ils ne pouvaient pas partir.
Et d'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse là-dessus, puisqu'il y a quelques jours, ont été déclassifiés des documents américains, et donc en fait, on se rend bien compte qu'en fait, il y a des mails de Hillary Clinton, qui était ministre des Affaires étrangères, enfin c'est pas ça la dénomination aux États-Unis, mais c'est l'équivalent aux États-Unis à cette époque-là, qui avait envoyé un mail directement au gouvernement pour demander de mettre tout en œuvre pour ne pas appliquer les décisions de justice visant à la libération de Georges Ibrahim Abdallah.
Et on va voir parce que ce que tu dis c'est très intéressant, ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, alors, okay. Et en effet, cette demande est rejetée. Mais je te disais, il y a un autre motif aussi.
Ouais.
Le motif est qu'il ne regrette pas les actes pour lesquels il a été condamné et qu'il n'aurait toujours pas indemnisé les ayants droit des victimes. Alors, les deux victimes dont il est question quand même, on rappelle que c'est deux agents du service secret, un espion donc américain et israélien, qui étaient sur le territoire français.
Oui, et puis ça n'a pas été prouvé directement que c'est lui l'auteur.
Non.
Jamais, quoi.
Il fait partie donc d'un groupe, c'est exactement comme on fait les associations de malfaiteurs, il faisait partie d'un groupe qui revendiquait ces attentats, etc. Mais il n'y a aucune... Alors, ce que je voulais dire quand tu dis le fait que... Attends, je me suis un peu mélangé les pinceaux tout à l'heure. Oui, tu me disais...
Sur Clinton et...
Oui, c'est le fait d'abord... certains disent que ce n'est pas un prisonnier politique, mais enfin, quand on voit les implications... Et alors, il y a des députés qui ont écrit à M. Hollande, là, récemment, au mois d'octobre 2015, hein, 32e année, pour demander sa libération. Et la réponse du président de la République est de dire que il a bien entendu et qui a toute son attention, mais qu'il ne peut pas, dans le cadre de l'indépendance de la justice et de l'État, il ne peut pas intervenir.
Oui, quand ça les arrange.
On se demande de qui on se fiche un petit
voilà,
peu quand même.
Ça.
Voilà, donc là, ce qui est demandé quand même, c'est que... oui, ce qui est dit, c'est que Georges Ibrahim Abdallah ne conteste pas sa condamnation, ne conteste pas avoir fait partie et être combattant des FARL, il était libérable depuis 1999. Toutes ces demandes donc ont été rejetées. On s'aperçoit à chaque fois pour des motifs différents, mis à part, pas différents, dans le sens que toi, tu avais le témoignage d'Hillary Clinton pour la pression américaine et aussi, on le sait, pour une pression importante des autorités israéliennes. Alors, ce que je voulais rajouter tout à l'heure, j'ai parlé de Pandro qui a dit qu'en effet, la piste Abdallah, ben, il l'avait prise un petit peu au hasard. Et là, on a un autre témoignage. Alors, c'est Yves Bonnet. À l'époque, il était directeur de la DST, service secret du moment, en 84, donc au moment de l'arrestation de Georges Ibrahim Abdallah. Et dans un entretien en janvier 2012, il juge anormal et scandaleux le fait de maintenir encore en prison Georges Ibrahim Abdallah. Il considère par ailleurs qu'il avait le droit de revendiquer des actes commis par les FARL comme des actes de résistance. Après, on ne peut ne pas être d'accord, c'est un autre débat. Mais il faut se souvenir du contexte, dit-il, aussi des massacres de Sabra et Chatila, dont les coupables n'ont jamais été punis. Et aujourd'hui, la France garde cet homme derrière les barreaux alors qu'elle a libéré Maurice Papon. C'est Yves Bonnet, hein, l'ancien directeur de la DST, qui parle. C'était en janvier 2012. Donc lui, il pense tout simplement à une vengeance d'État et il dit que c'est absolument lamentable. Je pense qu'on va en arrêter là.
On va arrêter là. On peut quand même préciser des moyens pour rejoindre les comités de lutte pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Il y en a un peu dans toutes les régions de France. Il y en a en Île-de-France, en PACA, Nord-Pas-de-Calais, à Toulouse. Il y a le collectif Coup pour Coup 31 qui milite beaucoup dans ce sens-là. Vous pouvez les contacter à coupourcoup31@gmail.com. Il y en a un petit peu partout dans le monde aussi. Et puis si vous voulez écrire directement à Georges Ibrahim Abdallah, son adresse, on vous la donne, Georges Abdallah, écrou numéro 2388A221, centre pénitentiaire de Lannemezan, 204 rue des Saligues, boîte postale 70-166-65307, Lannemezan-Sedex. C'est pas simple, mais vous la retrouverez sur la page Bruit de Tôle du site canalsud.net, on la mettra en lien sur...
Et aussi,
avec le podcast.
Coup pour coup avait aidé à la diffusion d'un livre, Georges Ibrahim Abdallah, le titre du livre, tout simplement, Collectif International. C'était aux éditions Aldante et c'est sorti en... Que je cherche le truc, je vais vous le dire. C'était sorti au deuxième trimestre 2012. En fait, ce n'est pas un récapitulatif de l'histoire, mis à part si, quand même, ce que je vous ai lu, le contexte historique. Il y a même les unes médiatiques, parce que quand même, il y a aussi, en même temps que ces manipulations des services secrets, il y a quand même des journalistes qui ont bien fait leur travail là-dessus de manipulation. Je trouve ça intéressant à lire parce que ça fait écho quand même aujourd'hui. On se rappellera de certains trucs. Il y a eu Tarnac hein, où les journalistes s'en sont donnés à cœur joie. Et je trouve que c'est très important ce petit livre, Georges Ibrahim Abdallah chez Aldante.
Voilà, et bien c'est ainsi que se termine cette émission de Bruit de Tôle. On se retrouve en direct chaque jeudi de 19, non pas chaque jeudi, voilà, il faut le préciser, les deuxièmes, quatrièmes et cinquièmes jeudis de chaque mois, s'il y en a un cinquième. Oui. Le reste du temps, c'est soit l'Envolée, soit le collectif de soutien sans papier, la CLIM, qui prennent l'antenne à notre place. Et puis donc en rediffusion, vous nous retrouvez sur la même antenne les vendredis, donc de 17h à 18h. Pour nous contacter, eh bien c'est simple, Bruit de Tôle, tout au pluriel, Tôle, c'est T-O-L. es@no-log.org et sinon si vous voulez nous écrire vous pouvez le faire au Radio Canal Sud émission Bruit de Tôle donc 40 rue Alfred Duméril 31400 Toulouse. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Et que sur le site on les a pas toutes téléchargées mais vous pouvez écouter, il y a une rubrique Bruit de Tôle, vous pouvez écouter quelques anciennes émissions.
Voilà, certaines émissions sont en réécoute. Et ben merci, bonne semaine à vous, courage à ceux qui sont à l'intérieur et puis bien à la semaine prochaine.
Au revoir.
La liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons. Alors disons, mon vieux copain, la vie est belle, quand on connaît la liberté. N'attendons plus partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé. Partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter. Partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté. À nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent se faire des cheveux alors qu'on peut vivre à sa fantaisie? Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins en attendant d'être assagi par l'âge. Contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain. Mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés quand on sera au bout du monde. Il sera temps de s'arrêter partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire, chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.